passe la parole maintenant à Mohamed Reza Yestani, donc il va nous parler des waqf dans une autre partie de l'islam, puisque c'est l'islam chiite en Iran à l'époque safavide. Voilà Mohamed Reza qui est également dans l'équipe avec Randy sur le waqf.
À tous, votre présence, et merci également à Randy et Fatiha.
Le micro.
Pour organiser cette journée d'études. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet parce que 20 minutes, c'est pas beaucoup, donc c'est court. Alors, le sujet de mon article était, le thème était femmes, waqf et droit de propriété en Iran à l'époque safavide. Dans la société safavide en Iran, du 16e au 18e siècle, les femmes jouaient un rôle non négligeable à travers les waqf. Par ce moyen, elles ont laissé des traces qui indiquent leur droit de propriété ainsi que le rôle qu'elles jouaient dans les domaines culturels, religieux et caritatifs à l'époque. J'ai étudié certains aspects du droit de propriété accordé aux femmes à l'époque safavide en appuyant sur les documents d'époque, particulièrement sur les chartes de fondation des waqf conservées dans l'archive de l'organisation des waqf et des œuvres caritatives disparantes. Tous les documents des waqf disparants qui se trouvent actuellement dans cette archive depuis l'époque safavide jusqu'à nos jours sont au nombre de 800. On a à peu près 800 documents de cette époque conservés dans l'archive des documents de waqf à Isfahan, en Iran. Ils sont rassemblés, relus, corrigés par des spécialistes et sont publiés par l'organisation des waqf et des œuvres caritatives disparantes dans un recueil en 12 volumes. Ce recueil nommé « Documents des waqf disparants ». Donc, c'est ce recueil qui est référence pour les documents et les chartes de waqf que j'ai utilisées dans cette recherche. Je commence d'abord par une introduction, parce que je pense qu'il y a des gens parmi vous, des personnes qui ne connaissent pas bien le waqf. Donc, c'est bien donner une définition pour le waqf. Ou on dit fondation pieuse. Sens littéral du waqf, c'est se tenir debout, s'arrêter, stopper. Mais sens juridique du waqf, dans la jurisprudence, est il s'agit de rendre inaliénable un bien dont l'usufruit ou les revenus sont consacrés à un ou plusieurs bénéficiaires. Tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'a, ce qu'on dit en arabe. Donc, waqf est l'un des phénomènes socioculturels religieux majeurs du monde musulman en vigueur dans la société islamique depuis les débuts de l'islam jusqu'à nos jours. Ce terme correspond dans la jurisprudence islamique le faire à une donation faite à perpétuité par un particulier au bénéfice d'un autre individu, d'un ensemble de personnes ou d'une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable. Voilà, c'est la définition du waqf dans la jurisprudence islamique. Le waqf, donc, est une place très importante dans la jurisprudence islamique. C'est une donation pas obligatoire comme la zakat, mais quand même surérogatoire, très important. Donc, dans la Perse safavide, qui est l'époque étudiée dans mon article, du 16e au 18e siècle en Iran, waqf a connu une évolution radicale et fondamentale durant laquelle les chiites expérimentèrent l'utilisation de cette pratique à une large échelle au sein de la société. Pour la première fois, un gouvernement chiite indépendant vint au pouvoir en Iran avec une forme et un système de fonctionnement nouveau, et les religieux prirent le contrôle de nombreuses fonctions civiles et culturelles. Donc, il s'agit de l'âge d'or du Varf en Iran. C'est pourquoi c'est très important d'étudier le Varf à cette époque en Iran. Maintenant, bon, avant d'expliquer le rôle des femmes dans le Varf, comme Randy a expliqué un petit peu, je vais vous expliquer les quatre piliers du Varf. Le Varf en question a quatre piliers. Le premier pilier, c'est l'acte du Varf, c'est-à-dire la prononciation de la formule du Varf et l'acte du Varf en lui-même. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième, c'est le fondateur ou la fondatrice, comme Randy a insisté de répéter la fondatrice, où on dit Varef ou Varefa du Varf, le donateur, la donatrice du bien mise sous le statut de Varf. Troisième pilier, c'est le ou les bénéficiaires du bien, Maruf on Alay. Il s'agit de là où des personnes pouvant avoir la jouissance du bien ou de son usufruit en vertu de la désignation du fondateur, fondatrice du Varf. Et quatrième pilier, c'est le bien mis en Varf par le fondateur ou fondatrice. Deux piliers parmi les cas nous concernent dans cet article. Pourquoi ? Le premier pilier, c'est le fondateur ou fondatrice du Varf. Donc, il y a des conditions fixes dans la jurisprudence pour les fondatrices ou fondateurs du Varf, être major, boler, être sain d'esprit et d'intention, orel, pas être frappé d'incapacité spéciale, joyeuse tasaruf. Donc, ce sont les trois conditions pour Waref ou fondateur ou fondatrice. Pour le bien mis sous le Varf, mis en Varf, il y a aussi quatre conditions. Être physique, le bien doit être physique. Être propriété licite du fondateur ou la fondatrice du Varf. Cette condition montre que si le fondateur ou la fondatrice n'est pas propriétaire de plein droit, il n'a pas le droit de mettre le bien sous le Varf. C'est ça qu'on va revenir sur cette question. Troisième condition, sa prise en possession par le bénéficiaire doit être possible. Quatrième, survivre après l'utilisation. Par exemple, comme une maison ou quelque chose qui va survivre après l'utilisation. Si c'est des fruits, légumes ou des choses qui... On ne peut pas le mettre sous le Varf. Donc, d'après l'étude des chartes de fondation de Varf qui se trouvent dans les archives d'Ispahan, on constate le droit de propriété tenu par les femmes dans ces sociétés. Les juristes musulmans sont tous d'accord du fait qu'un individu, femme ou homme, devrait tenir en pleine propriété un bien avant de pouvoir le mettre en statut de bien Varf. Par le biais de l'établissement d'un Varf, par sa charte de fondation. Les chartes du Varf créées par des femmes de l'époque safavide, notamment à Isfahan, nous donnent des précisions concernant les œuvres caritatives et d'autres intérêts qu'elles avaient auprès de la société. Les femmes peuvent effectuer des transactions avec les biens qu'elles possédaient sans avoir à obtenir la permission de quiconque et peuvent dispenser leur argent comme bon leur semble, ou bien en faire don, y compris sous forme de Varf. Donc, les chartes de Varf montrent que les femmes, particulièrement les femmes de la haute société, de la famille royale ou pas, qui disposaient de richesses personnelles importantes, ont réalisé des Varf moyennant leurs biens à divers bénéficiaires. Je donne trois exemples. Ici, par exemple, le premier, c'est Charte de Varf. Ça ne s'affiche pas, je ne sais pas. Charte de Varf numéro 106, datée en 1648, fondatrice et Delorme Khanom, épouse du Shah Abbas Ier, arrière-grand-mère du Shah Abbas II. C'est mieux de l'enlever et remettre. Encore. Donc, cette charte ouvarte numéro 106 Et pour, en fait, pour une école religieuse, l'école Jadda Kuchik s'appelle en persan, c'est-à-dire la grande mère du roi, créée par la fondatrice. Donc, il s'agit d'une école créée par la fondatrice en 1648. Deuxième charte, c'est charte du Warf numéro 103, datée en 1648, créée par Hurinam Khanom. C'est le prénom de la fondatrice, Hurinam Khanom, mère du Shah Safi, arrière-grande-mère du Shah Abbas II. Il s'agit Warf pour une école religieuse et aussi les boutiques et les villages en bénéfice de cette école. Troisième exemple, c'est charte du Warf numéro 111, datée en 1661, créée par Gohar Shah Begum, fille de Mirza Mohammad Ismail, épouse du Sheikh Amer al-Najafi. Donc, elle n'appartient pas à la famille royale. Les deux premiers appartenaient à la famille royale, mais troisième, c'est une dame qui était riche, mais n'était pas parmi la famille royale. Donc, vous voyez, ici, c'est mentionné les différentes chartes, par exemple, charte 106, fondatrice de l'Orom Khanom, ou charte du Warf 103, Hurinam Khanom. Et vous voyez ici, propriété mise en Warf, c'est des boutiques, le village de Dahmad, le village de Barzabad et Rohab. Bénéficiaire, c'est pour l'entretien de l'école Jadda Bozorg, l'école mentionnée. Et en cas de surplus, en fait, cela sera distribué aux étudiants résidant dans l'école si le gérant, Mutawali, le juge. Bon. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs chartes ou warf créées par les femmes. Gohar Shah Begum, le numéro 111. Le numéro 150, c'est la mère du Shah Soleiman. C'est, voilà. Numéro 50, par exemple, c'est Dada Khanom. Elle n'appartient pas aussi à la famille royale. Et elle a mis sous le Warf toutes les boutiques qui sont à côté d'une résidence au bénéfice de sa fille, par exemple, Razia Banu Khanom, et après elle, en faveur de l'ensemble de ses descendants. Donc, d'après ces exemples, on trouve que les femmes étaient actives dans la société safavide. Elles ont mis sous le Warf des biens, des fois très importants, comme des villages, des bâtiments. Elles ont construit des écoles. Donc, surtout, le rôle d'importance de la construction des écoles à l'époque safavide aussi, il faut faire attention à cet rôle important parce que les Warf destinés à des établissements d'enseignement religieux ne se limitent pas à la construction du bâtiment lui-même, puisque les fondateurs ou fondatrices du Warf prévoyaient également des revenus destinés pour l'entretien des lieux et les réparations éventuelles, mais aussi pour assurer la subsistance, on dit, des étudiants et des enseignants. Donc, on trouve parmi les chartes, on peut classer les Warf établis par les femmes d'Isfahan à l'époque safavide dans quatre catégories. Première, c'est les Warf pour l'entretien, l'éclairage et les dépenses des écoles religieuses, comme Jadda Kuchik, Jadda Bozorg, Nimavort, qu'on a mentionné. Deuxième catégorie, c'est les Warf pour les descendants, comme elle a fait pour sa fille. On vient de voir le numéro 50. Ou les Warf pour l'entretien, l'éclairage et parfumer des lieux saints, comme mausolée de prophètes de l'islam ou les imams chiites. Quatrième catégorie, c'est les Warf pour les servantes, les nécessiteux, les pèlerins et les résidents des lieux saints ou pour les bonnes œuvres. œuvre charitable. Donc, nous constatons que l'un des objets d'Evar fondés par des femmes de la période safavide était les écoles religieuses. Donc, les femmes jouaient un rôle important, non négligeable, dans ce domaine. Les journaux de voyage, par exemple, des Européens en Iran à l'époque safavide, comme par exemple Jean Chardin, il mentionne dans son journal de voyage que le nombre des écoles à Isfahan à cette époque était 57. 57 écoles durant l'époque safavide. Mais malheureusement, on n'en a que 17 chars d'ouvar pour les écoles de cette époque. Les écoles, par exemple, créées par les femmes, comme j'ai déjà mentionné, l'école Jad de Kuchik, Jad de Bozor, Nima Vord, sont fondées par les femmes de la famille royale, comme grand-mère du roi Abbas, ou des femmes simples, ordinaires, mais riches, comme Zobaïda Begum, la femme d'un médecin. C'était la femme de Hakim al-Malik, Ardestani. Donc, nous l'avons remarqué, la construction d'une école pourrait représenter un montant très important, ce qui implique donc que les fondatrices soient très riches. Sur ces trois fondatrices, on trouve que Zeynab Begum, elle n'appartient pas de la famille royale. Donc, pour conclure, j'avais ici une charte ouverte de l'école Jad de Bozor pour vous montrer si j'arrive à... Je ne sais pas pourquoi l'écran ne s'affiche pas ici. Peut-être. J'ai la charte ouverte de l'école Jad de Bozor créée par Hurinam Khanom. Je pense. C'est pas grave. Alors, pour conclure, à l'appui des exemples donnés, on constate que les femmes dans la société safavide et par ailleurs avaient plein droit sur leurs biens, car sans avoir propriété de plein droit, les fondatrices ne pouvaient pas faire de varf. Nos documents précisent des situations où les femmes créaient des fondations varf en tant qu'acte charitable, montrant qu'elles participaient activement dans la construction de leur société. Tout cela nous permet de conclure que la question du genre ne posait pas de problème pour établir un varf et les femmes de la capitale safavide, à côté des hommes, s'intéressaient aux questions culturelles, religieuses et sociales et s'investissaient dans la mesure de leurs moyens et grâce à leurs droits de propriété dans ces questions en consacrant une partie de leurs biens aux œuvres d'intérêt général caritatives à travers le VARF. Merci de votre attention.